Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
Aline, un tube inoubliable, l'oiseau de nuit. Christophe est mort à 74 ans. Jean-Philippe Ballas va lui rendre hommage dans un instant. 17 mars, 17 avril, un mois de confinement et quel chemin parcouru. Nous vous ferons revivre ces jours qui ont changé nos vies. Un long confinement parfois très difficile à vivre dans les familles. Un numéro vert leur permet de raconter et de décompresser.
C'est une maman qui s'est effondrée en larmes et elle me dit tout simplement qu'elle ne peut plus être disponible physiquement mais plus psychiquement pour son fils.
18 millions de personnes pourraient rester confinées plus longtemps, au-delà du 11 mai, notamment les seniors. Impossible, selon Axel Kahn.
Si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, l'esprit de la loi française est d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer.
Et puis le tourisme cet été s'annonce très compliqué, un énorme manque à gagner pour le secteur, 75 millions d'emplois en danger. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Votre invité à 7h40, Mathieu.
Deux invités, Hélène, et vous en parliez, on va débattre du confinement prolongé des seniors, l'ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, Michel Delaunay, et le journaliste Charles Biétry en colère, il veut sortir de chez lui. Échange, débat à 7h40. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On n'entendra plus jamais ces mots bleus, sa supplique à Aline, ni son succès fou avec les filles. On l'a appris dans la nuit, le chanteur Christophe s'est éteint dans un hôpital de Brest, des suites d'une maladie pulmonaire, un emphysème, selon sa famille, Jean-Philippe Ballas.
Oui, et là je pense à lui parce que c'est souvent l'heure à laquelle il allait se coucher, Christophe, un oiseau de nuit, c'est ainsi qu'il se présentait, quand il composait dans son appartement, boulevard du Montparnasse à Paris, rempli de vieux synthés, de toiles, de bibelots, un refuge derrière ses lunettes sombres.
Et puis c'est vrai que bon, moi j'aime bien la vie la nuit, donc surtout en ce moment, c'est vrai que je travaille un petit peu, surtout que le ciel est très très beau en ce moment, même si ça caille, donc j'aime bien me coucher vers 8h30, 9h.
Du matin?
Ouais, du matin. Et puis, parce que je me fais toujours un film dans la nuit, après je reviens sur ma console travailler, et donc j'aime bien voir le matin qui se lève. Avec un ciel comme ça, et la tombée du jour comme ça, c'est... Voilà, vous m'avez pris au saut du lit, quoi.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa.
Pendant des heures, Christophe pouvait vous parler des sons, des couleurs qu'il aimait. Il écoutait aussi les jeunes artistes, il était une idole pour beaucoup, mais il n'écoutait jamais sa propre voix. C'était toujours le prochain album qui l'intéressait, et surtout pas les anciens.
Bande ne joue plus les marmots, je n'ai pas revu Cabalou.
Merci Jean-Philippe Ballas, on va vous retrouver évidemment à 7h50 dans Périscope. Oui, parce que nous rendrons hommage ce matin à Christophe tout au long de cette matinale. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous raconter votre Christophe, vos anecdotes, à nous dire votre émotion, lui rendre hommage tout simplement. 3921 ce matin, ou le hashtag Radio Ouverte bien sûr.
Nous sommes le 17 avril, cela fait donc un mois pile que la France est placée sous cloche, un mois où nos vies ont été bouleversées. En un mois, nous sommes passés de 150 à près de 18 000 morts. Et dans ce laps de temps, les connaissances sur le virus ont évolué, même s'il reste encore beaucoup de questions. Les politiques publiques ont suivi cette évolution également.
Un mois, c'était hier et ça paraît pourtant déjà loin. On va appuyer sur le bouton marche arrière grâce à Théo Manval.
Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Lorsqu'Emmanuel Macron décrète le confinement au 17 mars, la France compte 6500 cas et 148 morts du coronavirus. Ils sont déjà 3000 en Italie et le tsunami tant redouté commence à arriver dans le Grand Est, comme ici, à l'hôpital de Colmar.
C'est un stress constant. Dès qu'un patient sort, on a forcément une admission derrière. On va être en manque de respirateurs très très rapidement. Il faut que les gens prennent conscience. Ce n'est pas une petite grippe.
On peine alors encore à cerner vraiment le taux de mortalité du virus. Une première étude sur un possible traitement est lancée à Marseille, nous raconte Nathalie Chevance.
24 patients qui ont été traités par les équipes de l'IHU à la Timone. Ils ont pris de l'hydroxychloroquine.
Un mois plus tard, la communauté scientifique est toujours divisée. La vague, elle, emporte le 23 mars un premier médecin urgentiste à Compiègne. Une semaine plus tard, stupeur dans le monde des transports.
Quel symbole. L'aéroport d'Orly va fermer ses portes.
Oui, c'est du jamais vu.
Et il ne faudra que 10 jours au virus pour clouer au sol la quasi-totalité des avions à travers le monde. Dans le sillage des aéroports, toutes les usines, bars, restaurants ont fermé leurs portes ce 17 mars. État d'urgence sanitaire et arsenal d'aide d'urgence du ministère de l'économie.
L'ensemble de ces mesures représente 45 milliards d'euros.
Un mois plus tard, on en est à plus du double, 110 milliards, et des prévisions de récession passées de 1 à 8% pour cette année. Mais dans le même temps, la solidarité s'organise, la connaissance sur le virus progresse un peu chaque jour.
Effectivement, on s'est rendu compte que le fait de ne plus avoir de goût fait partie des signes cliniques de la maladie.
Et le monde scientifique finit aussi par balayer la doctrine initiale du gouvernement en pleine pénurie sur le port du masque.
Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien.
Aujourd'hui, de nombreuses villes et régions annoncent offrir bientôt ce que le président de la République lui-même a appelé des masques grand public en tissu. Et si les EHPAD et hôpitaux manquent toujours de matériel, pour la première fois cette semaine, le nombre d'entrées à l'hôpital a commencé à baisser. C'est un effet du confinement. Même si, attention, rien n'est gagné, martelait encore hier matin le chef du service cardiologie à l'hôpital Bichat.
On est à un plateau du nombre de cas, les réanimations sont pleines à un niveau qui est le double ou le triple du chiffre normal. Et s'il devait y avoir un rebond, on serait mort.
Et pour empêcher ce rebond, on manque encore de certitudes, notamment sur l'immunité ou non des personnes déjà contaminées.
Éclairante compilation signée Théo Manval.
Un mois de confinement et encore plus de trois semaines avant le 11 mai. Dans le huis clos de certaines familles, le temps paraît incroyablement long.
Oui, pour les parents qui craquent, il existe un numéro vert qui permet de partager ses émotions, de désamorcer des situations de crise. Lancé d'abord dans le Calvados, il est désormais accessible dans toute la France. Charles Guyard.
Personne n'est infaillible dans ces périodes du confinement.
Une maman débordée, des grands-parents inquiets, un ado qui broie du noir. Le confinement peut en effet parfois être source de détresse dans les familles. Pour y faire face, la Fédération nationale de l'école des parents et des éducateurs a lancé un numéro vert. Au bout du fil, des psychologues, des conseillers conjugaux, des médiateurs font face aux questions, aux doutes. Alexandra Christides, la directrice de la Fédération.
C'est important que les gens ne restent pas avec leurs inquiétudes, mais puissent en parler. Les situations aujourd'hui se retrouvent exacerbées compte tenu du contexte.
Et un contexte qui génère une cinquantaine d'appels par jour, traduisant l'inquiétude, la fatigue, la panique aussi.
Les parents sont dans une situation où ils sont en train de craquer.
Marilène Cassaz, psychologue, clinicienne et écoutante.
C'est une maman qui s'est effondrée en larmes suite aussi à l'annonce de la poursuite du confinement d'un mois encore. Et elle me dit tout simplement qu'elle ne peut plus être disponible physiquement, mais plus psychiquement pour son fils. Et elle attend avec impatience la fin de la journée pour pouvoir se reposer. Le fait d'avoir parler avec elle lui a permis de pouvoir parler de sa culpabilité.
Et si une longue discussion n'est pas suffisante, des rendez-vous téléphoniques sont proposés avec d'autres spécialistes. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà ce numéro d'écoute pour parents débordés, le 0805 382 300 0805 382 300 disponible de 10h à 22h du lundi au samedi. Deux mois de confinement, c'est beaucoup dans certaines familles, et que dire des seniors qui vont vraisemblablement devoir rester confinés encore plus longtemps, peut-être même jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
Alors on ne sait pas d'ailleurs si ce sera une recommandation du gouvernement ou une obligation. Les précisions sont attendues d'ici une dizaine de jours, mais isoler les plus fragiles plus longtemps, est-ce vraiment légal?
Non, répond Axel Kahn, médecin généticien et président de la Ligue contre le cancer. Il dénonce une mesure qui serait le prolongement du confinement pour une seule et unique catégorie de personnes, mesure selon lui discriminatoire et donc inconstitutionnelle.
Si jamais cela devait aboutir à une mesure administrative, faisant que ces personnes, au-delà de 65-70 ans, au-delà d'un certain poids, au-delà d'une certaine capacité respiratoire, au-delà d'un certain nombre de mois de grossesse, etc., etc., avaient une amende si elles sortaient de chez elles, ça serait totalement pas possible. C'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que simplement on ne le peut pas. Quand on confine tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, la Constitution française, l'esprit de la loi française, et d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer.
Le généticien Axel Kahn, invité hier de Pierre de Villeneuve dans Europe Midi.
C'est passionnant ce que dit Axel Kahn. Il faut y penser, la discrimination en fonction de sa faiblesse ou de son âge. On va en parler ce matin avec deux seniors qui assument parfaitement leur âge et qui débattent de cette question, l'ancienne ministre Michèle Delaunay et le journaliste sportif Charles Bietri.
Florence Parly, auditionnée cet après-midi par les députés de la commission de la Défense sur la situation du porte-avions Charles de Gaulle. Deux enquêtes sont en ce moment en cours, une de commandement et une épidémiologique. Près de 670 marins sont positifs au Covid-19, plus d'un tiers. Le bilan reste d'ailleurs temporaire puisqu'il manque 30% des tests.
7h10 sur Europe 1, nous vous l'avions annoncé dès la semaine dernière. Le plafond du paiement sans contact passe de 30 à 50 euros à partir du 11 mai prochain.
Confirmation de la Fédération bancaire française, ce mode de paiement diminue les risques de contamination. Plus d'une PME sur deux craint la faillite. Enquête dévoilée ce matin par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Face au risque de faillite, Bruno Le Maire demande un effort aux gros propriétaires, notamment de centres commerciaux, l'annulation des loyers pour 3 mois pour les très petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 salariés.
Le ministre de l'économie qui rencontre ce matin hôteliers et restaurateurs, il consacre 100% de son temps au sauvetage de l'économie évidemment, mais la politique n'est jamais loin, Michaël Darmon.
Ah ça, il n'en a jamais fait autant, hein. Des tonnes même, là, on va être clair. Il regarde du côté de Matignon, une place que le ministre de l'économie en fait a toujours imaginée faite pour lui. Bruno Le Maire n'a jamais vraiment compris pourquoi Édouard Philippe, l'ancien maire du Havre et proche d'Alain Juppé, avait été nommé à Matignon en 2017, alors que lui a d'emblée rejoint les rangs de La République En Marche et que très tôt, il a renoncé à son étiquette de droite. Depuis le début de la crise du coronavirus, Bruno Le Maire est en première ligne et a repris à son compte la formule présidentielle « Il faut sauver l'économie, quoi qu'il en coûte ». La crise comme une opportunité, l'occasion pour lui de mettre en avant ses idées et de décrocher l'imprimatur. Officiellement, l'heure n'est pas un changement de Premier ministre et Bruno Le Maire se dit entièrement consacré à sa tâche à Bercy. Mais les amis d'Édouard Philippe scrutent le moindre geste du président de la République, le seul qui peut décider de garder ou changer un chef de gouvernement. Par exemple, ils ont bien noté qu'Emmanuel Macron n'a pas cité le Premier ministre lors de son allocution récente à la télévision, alors que selon l'information, c'était prévu dans une des moutures de son discours.
Votre fait politique, Michaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Y aura-t-il encore des touristes cet été? Ce secteur clé pour beaucoup de pays, en Italie c'est 3 millions d'emplois, hein, n'a jamais connu une crise aussi grave. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Et ouais, il y a quelques mois encore, rappelez-vous, la grande question c'était comment faire pour réduire la fréquentation de certains hauts lieux comme Venise, envahis par des hordes de touristes. Depuis, nous avons changé de monde. Le tourisme, c'est 10% de l'économie mondiale. 75 millions d'emplois sont désormais à risque dans le monde à cause du virus. La profession s'attend à une chute de 30% du nombre de touristes internationaux cette année, au minimum. Les touristes chinois qui représentent un quart, voire un tiers de la clientèle des grands magasins parisiens ou londoniens ne sont pas prêts de revenir en masse.
Et même avec un déconfinement en mai, en Europe, la saison d'été est compromise.
Oui, alors la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a beaucoup énervé les professionnels en conseillant, je cite, de ne pas programmer de vacances d'été en espérant que le coronavirus aura disparu d'ici là. Mais la vérité pourtant est bien celle-là, il n'y aura pas de retour à la normale cet été. Un exemple, les Italiens envisagent de rationner l'accès aux plages avec un système de réservation et de créneaux horaires. Les plus âgés par exemple n'auraient le droit d'y aller qu'à certaines heures. Il est question aussi d'imposer une distance de 3 mètres entre chaque parasol avec pas plus de 3 ou 4 personnes par parasol et beaucoup de contrôle. Voilà ce qui se prépare sur les plages. C'est une autre ambiance.
L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et puis Mathieu, on va terminer comme on a commencé, avec un timbre de voix reconnaissable entre tous. Christophe, qui vient de nous quitter à 74 ans.
Et j'ai crié, crié à l'une pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré.
Et pour la petite histoire, Christophe racontait que Aline, c'était une Polonaise pas dégueu. Elle s'occupait à l'époque du vestiaire de l'Orphéon Club et la journée, elle était assistante dentaire boulevard du Montparnasse.
La belle dame s'était enfuie.
Je ne savais pas qu'elle existait vraiment, figurez-vous.
C'est
vous
ce
me la prenez.
Raconte, peut-être que...
Pardonnez-moi l'expression. C'est une Polonaise une pas dégueu.
Voilà.
Pardonnez-moi. Merci Hélène Zélani. On